This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, ce soir avec Michaël Thébault, une nouvelle voix qui rejoint l'équipe et qui vous proposera tous les soirs un petit journal de l'international. À la une aujourd'hui, Tchernobyl et le Mali. Vers 18h55, c'est Bertrand Galichet du service diplomatique de la rédaction de France Inter qui vous proposera un édito sur la conférence des ambassadeurs. C'est la rentrée pour le corps diplomatique français. Mais tout de suite, direction les États-Unis.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Les États-Unis en pleine pré-campagne présidentielle. Souvenez-vous, nous nous étions quittés fin juin avec un paysage relativement serein côté démocrate. Hillary Clinton occupait tout l'espace, tandis qu'à droite, chez les républicains, les candidatures se multipliaient, Jeb Bush faisant tout de même figure de sérieux favori. Depuis...
Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States, Mr. Donald Trump.
L'inénarrable Donald Trump qui a tout dévasté, milliardaire, homme d'affaires, étant passé par la télé-réalité. Il multiplie les déclarations fracassantes, machistes, parfois délirantes, et il fait la course en tête dans les sondages. N'est-il qu'un bouffon ? Je pose la question d'autant plus violemment que personne ne semble vraiment comprendre la nature du phénomène Trump. On en parle ce soir avec François Durpère. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Demand.
Et merci d'être au micro de France Inter, historien spécialiste des États-Unis. En ligne avec nous, notre correspondant aux États-Unis que je salue. Bonsoir Frédéric Carbone.
Oui, bonsoir Nicolas.
Nous reprenons nos lundis, comme on dit dans le monde, et nous poursuivons avec vous le journal de la présidentielle américaine. Une première question pour démarrer, François Durpère. Sincèrement, vous l'aviez vu venir, Trump ?
Personne ne l'a vu venir, personne. Et les analystes politiques sont perdus aux États-Unis. Ils se disent quand est-ce que ça va se dégonfler, parce qu'ils essaient de faire de l'histoire politique. Donc ils se disent normalement une gaffe, deux gaffes, trois gaffes et ça se dégonfle. Sauf là, les gaffes s'accumulent et ça ne se dégonfle pas.
Et
ils ont pris un exemple. Ils ont dit c'est une balle qu'on lance en l'air et normalement il y a la loi de la gravité qui fait que la balle redescend. Sauf qu'avec Donald Trump, la balle ne redescend pas. Où est-elle ? Est-elle dans un arbre, pourquoi ne redescend-elle pas ? Et Donald Trump, semaine après semaine, fait de plus en plus peur à une partie de l'Amérique, peur aussi aux républicains qui se disent non seulement il est en tête des sondages en termes de popularité, mais désormais il est même le favori dans les intentions de vote concrètes. C'est-à-dire lorsqu'on interroge par exemple l'État de l'Iowa qui sera le premier à voter février 2016. On se souvient que là, il reste encore un an et demi.
C'est pas demain, mais c'est déjà intéressant. Juste d'un mot, Frédéric Carbone, la peur, disait François Durpère, une sorte de sidération qu'on perçoit bien dans la presse américaine. Il y a du mal à analyser ce phénomène.
Il y a beaucoup de mal, il y a un réel embarras. C'est-à-dire qu'au début, il y avait même des médias qui ne le classifiaient pas dans les candidats normaux à la présidentielle. Il y a des sites internet qui refusaient de le compter dans les candidats politiques comme les autres qui faisaient une place à part à Donald Trump. Il y a eu ce que disait François Durpère, le côté « la bulle va se dégonfler, la bulle va éclater ». Chaque fois que les médias font une polémique à propos d'une déclaration de Trump, et ben ça ne fait que faire monter Donald Trump. Donc, et puis il y a autre chose, c'est que Donald Trump, il fait vendre. Donald Trump, le débat télévisé de début août, 24 millions d'Américains sont derrière leur poste, beaucoup plus que d'habitude. Il est sur tous les écrans de télé. Donald Trump, c'est la caution Audimat de CNN pendant tout le mois d'août. C'est quand même ça la réalité. Après, il y a des médias qui s'interrogent, qui prennent au sérieux le phénomène, qui se demandent d'où il vient, qui se demandent qui est autour de Donald Trump aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant. François Durpère prenait l'image d'un ballon. Aujourd'hui, c'est presque aussi l'image d'une quille de bowling qui a fait un strike à son premier coup. C'est-à-dire que tous les candidats républicains sont tombés. Donald Trump, aujourd'hui, il fait plus que Bush dans les intentions de vote chez les modérés, c'est-à-dire la clientèle naturelle de Jeb Bush. Il fait plus que Huckabee chez les évangélistes chrétiens, c'est-à-dire la clientèle naturelle, là aussi, de Huckabee. Il fait plus que Ted Cruz chez les Tea Party, c'est-à-dire là aussi ceux qui sont plutôt derrière ce candidat.
Donc il attrape tout.
Il rattrape tout.
Ouais.
Il attrape tout ce qu'ils ne veulent pas d'un politicien traditionnel.
Est-ce que François Durper et Frédéric Arbonne, après la une de Time Magazine, Deal with it, avec une grande photo de Donald Trump, Deal with it qui peut se traduire de différentes manières, de faut bien faire avec, hein, faudra bien faire avec, jusqu'à débrouillez-vous pour rester poli avec ça. Ça résume bien quand même l'état d'esprit, non ?
Ça résume l'état d'esprit et c'est, vous voyez, cette une manière d'interroger les politiciens traditionnel, parce que derrière la réussite de Donald Trump, il y a un chiffre. Ce chiffre, c'est 24% d'Américains qui ont confiance dans l'État fédéral. 24% des Américains qui ont confiance dans les hommes politiques traditionnels. Eh bien, ces 24%, c'est très peu. Ça veut dire que tous les autres, ils attendent un autre discours. Et donc, le discours de Donald Trump, il apparaît pour nous de manière très excessive ou outrancière. On dit c'est un bouffon. Pour beaucoup d'Américains, ça s'appelle du franc-parler. Et on se dit, ben voilà, c'est un discours qui va peut-être bouleverser un petit peu la scène politique américaine. Puis, vous l'avez dit, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, du côté démocrate,
Hillary
Clinton, bon, elle semble avoir un boulevard. Et du côté républicain, c'était l'inverse. Il y a tellement de candidats, il y en a aucun qui se dégage vraiment. Donc, évidemment, Carbone vient de le dire, ça fait vendre Donald Trump.
C'est une bête de
ça
télé,
fait vendre Washington.
Plus, hein.
Évidemment, il fait, vous avez vu le débat télévisé. Il a été hué pendant une grande partie du débat. Mais les mêmes personnes qui vont le huer sont les personnes qui, le lendemain, il a écrasé le débat. 54% des gens interrogés ont dit il a écrasé ce débat. C'est lui le grand vainqueur. Et pourtant, ils l'ont hué. Oui, mais parce que ça a fait le show. Alors, certains disent c'est pas de la politique, c'est de la télé-réalité. Mais en même temps, ils jouent un peu avec le feu, les républicains, en se disant pour le moment, on ne parle que de nous, dans l'ensemble du monde. On est à un an et demi de la présidentielle américaine. Et de quoi on est en train de parler sur France Inter, en France, de Donald Trump et derrière Donald Trump, du Parti républicain. Donc, ils sont à la fois très contents parce qu'on parle des républicains et en même temps une partie d'eux qui se disent, mais attention, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu ? Quid de l'électorat féminin quand Donald Trump fait des déclarations sexistes ? Quid de l'électorat hispanique quand Donald Trump fait des déclarations anti-hispaniques ? Panique, raciste, disons-le. Comment ça va se terminer? Et finalement, notre candidat favori naturel, qui est donc le deuxième, Jeb Bush, est-ce que c'est pas en train véritablement de lui plomber sa campagne?
Alors dites-nous, Frédéric Carbone, le génie télévisuel dont il a fait preuve pendant ce fameux débat Donald Trump.
Eh ben, il le disait, François Durper, dans ce débat, il a été applaudi, il a été hué, et ça a été l'occasion pour lui de mettre en pratique ce fait qu'il ne faut pas respecter les codes politiciens. Lui n'est pas un politicien professionnel, il bouscule tous les tabous, et ce fut le cas dans ce premier débat. On écoute par exemple cet extrait, où beaucoup de choses s'est joué sans doute.
Is there anyone on stage who is unwilling tonight?
On entend le journaliste de Fox News qui se fait très solennel pour demander à tous, aux 16 candidats, enfin il n'y en a que 10 là ce jour-là, s'ils font le serment de soutenir celui qui au final sera le candidat. Levez la main si ce n'est pas le cas, évidemment, une seule main va se lever. Alors laquelle se lève? Évidemment, c'est Donald Trump qui rajoute: je ne suis pas prêt à prendre cet engagement, et il laisse planer l'hypothèse d'une candidature indépendante. Entendu, il est hué à certains moments, il est applaudi à la fin, mais c'est ce qu'attendent ceux qui le suivent pour le moment, qu'il continue d'être l'outsider, le politiquement incorrect, celui qui se promène partout avec sa casquette de baseball, sur laquelle est écrit son slogan « Make America Great Again », autrement dit, redorer le blason de l'Amérique. Et quand on lui demande comment il va faire, où il va trouver l'argent pour financer ses programmes, il répond « Un patron ne donne pas ses secrets de fabrication ».
Ouais, puisque,
voyez, encore une fois, pas voilà, de politique.
Pas de politique, et c'est un milliardaire, non, un patron.
Je suis un milliardaire. Il dit j'ai 10 milliards de comptes en banque. En fait, il en a que 6. Mais pour lui, c'est mieux de dire qu'il en a trop. Alors que d'habitude, un homme politique, il ne doit pas dire qu'il a beaucoup d'argent.
Il sème la panique politiquement chez les Républicains, François Durper. Pour quelle raison?
Pour deux raisons. Et Frédéric Carbone vient de les donner toutes les deux. La première raison, c'est que il n'est pas, c'est pas seulement le candidat qui fait comme ça son petit tour et je m'en vais. Il est en train de mettre en place à l'intérieur de chaque État des logistiques, des équipes. par exemple, le premier État à voter, c'est l'Iowa. Eh bien, ça y est, dans l'Iowa, il est à 29% d'intention de vote, devant Ben Carson, 14%, et Scott Walker, 9%. Jeb Bush, lui, n'est que 6e. Vous allez me dire, l'Iowa, c'est tout petit, c'est un caucus, c'est pas important. Sauf que 6e pour le candidat qui est censé être premier et favori, oui, c'est pas très bon. Vous vous souvenez qu'en 2008, Hillary Clinton, super favori des démocrates, elle n'avait pas gagné l'Iowa. Celui qui avait gagné l'Iowa, c'était Barack Obama. Et c'est Barack Obama qui avait fini par gagner. Donc déjà, perdre pour Jeb Bush la première élection, c'est pas bon. Et lui met en place des équipes. Hein. Il dépense son argent de manière intelligente. Deuxième raison, Frédéric Carbone vient de la donner, 6 milliards de dollars de fortune personnelle. Il n'a pas besoin de beaucoup de donateurs. Le donateur, c'est lui. C'est lui qui va donner à sa propre campagne. Et donc, 6 milliards, c'est 2 à 3 fois ce que les deux candidats en 2012 ont dépensé, c'est-à-dire Mitt Romney et Barack Obama. C'est-à-dire que s'il voulait dépenser toute sa fortune, il pourrait écraser ses adversaires sous des tonnes de publicité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pourrait y aller, ça vient d'être dit, sans les Républicains. Vous imaginez, en France, allez, on est lancé sur les primaires chez les Républicains français cette fois. François Fillon dit « je vais jouer le jeu, puis de toute façon, même si je perds, de toute façon, j'irai tout seul ». C'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Il sous-entend qu'il joue le jeu, mais si ils n'ont pas décidé de l'élire, il ira tout seul. Ça rappelle de très mauvais souvenirs aux Républicains. Ça avait fait perdre George Bush contre, à l'époque, Bill Clinton, parce qu'il y avait une triangulaire, et les triangulaires, c'est très mauvais pour les Républicains. Il avait manqué 5 millions de voix pour George Bush.
Encore un mot,
Oui,
encore un mot sur l'argent, Frédéric Carbone.
Bah oui, l'argent, les 6 milliards, ça permet aussi à Donald Trump de dire, moi, je ne suis pas dépendant de l'argent qu'on me donne. Il fait passer tous les autres candidats républicains, démocrates et autres comme des otages de leurs donateurs, de ceux qui financent grassement les campagnes électorales. Les frères Cor, notamment du côté républicain, qui disent qu'ils vont mettre 1 milliard sur la table pendant ces élections. Donc il dit, eux, ils seront les otages de ceux qui les financent. Moi, je suis indépendant. Et il rajoute, tous ces gens-là qui disent aujourd'hui que je suis pas sérieux, tous les autres candidats, il y a 4 ans, 8 ans, pour des élections de gouverneur, pour d'autres élections, ils sont venus me demander leur soutien et de l'argent. Ils surfent là-dessus en ce moment, Donald Trump. Après, très franchement, qu'il ait les moyens de bousculer, qu'il continue de bousculer, qu'il ne soit pas uniquement celui qui a dansé un seul été comme beaucoup d'autres candidats. Je vous donnerai des noms. Herman Cain, Michel Bachmann, il y a 4 ans. Vous en souvenez plus, Nicolas. C'est des noms
qui ont passé, quoi. Des météorites.
Ils ont dansé un été, c'était fini. Sans doute n'est-ce pas le cas de Donald Trump. Après, ce sur quoi insistent beaucoup de journaux sérieux, c'est deux choses. Cette espèce de coalition très attrape-tout qu'il a aujourd'hui. De quelle manière elle se coagule? De quelle manière elle peut devenir quelque chose d'uni? Et puis, quand se posera la question, non pas qui est le candidat qui nous excite le plus, qui est le candidat qui fait le plus le show, mais qui c'est qui peut gagner face à Hillary Clinton ou quelqu'un d'autre, là reviendront les questions que vous posiez dès le début, Nicolas. La question du vote des femmes, la question des hispaniques et autres.
Ouais.
Voilà, donc personne aujourd'hui ne va jusqu'à dire, au final, Donald Trump sera le candidat républicain.
Oui, mais on peut déjà dire, Frédéric Carbone, que sur la question notamment de l'immigration, il est déjà plus qu'une comète, plus que un candidat météorite qui traverse le champ politique, puisque il a fait des propositions en termes d'immigration, et ce sont tous les républicains qui sont allés sur ces positions-là.
Oui, on va peut-être écouter d'abord, remettons-nous dans l'oreille ce qu'il disait le jour de sa candidature sur cette question de l'immigration.
Quand le Mexique nous envoie ses ressortissants, ce ne sont pas les meilleurs. Ils nous envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui viennent ici avec leurs problèmes. Il y a des drogués, des criminels, des violeurs, et quelques-uns d'entre eux, j'imagine, sont de bonnes personnes.
Ah, il y va.
Voilà, on est exactement dans la rhétorique Trump. Ouais. On pensait que c'était la première chose qui allait le faire chuter. La première chose qui allait faire que la bulle Trump allait éclater. D'ailleurs, dès le lendemain, la chaîne Macy's retire les produits Trump de ses étalages. La chaîne de télévision NBC annule l'émission de télé-réalité avec Donald Trump. Eh ben, quelques semaines après, vous avez effectivement tous les candidats républicains, la plupart, à l'exception notable de Jeb Bush et peut-être de Marco Rubio aussi, qui sont sur ce terrain-là et sur la question de l'immigration ne se pose plus chez les républicains. La question de, mais ne faut-il pas quand même en régulariser quelques-uns des 11 millions d'immigrants qui ont de la famille ici? ça n'est plus que comment agrandir le mur avec le à la frontière avec le Mexique et pourquoi pas ne pas envoyer des drones de surveillance tout autour de la frontière en permanence. Donc effectivement, cette bataille-là, il a gagné. Et même si, je vous cite le New York Times, le New York Times dit, il a inventé un néologisme, le Trumpisme n'est pas une idéologie, c'est une attitude. Sans doute est-ce la réalité, mais les idéologies que diffuse Donald Trump, elles sont en plein dans le débat républicain aujourd'hui.
Et on voit donc qu'elles ont un pouvoir de déformation du corpus idéologique ou même, pour le dire simplement, du débat politique du côté républicain.
Le problème n'est pas Trump, le problème c'est le Trump effect, c'est-à-dire quel effet a Trump sur les autres candidats. Et vous avez choisi une thématique très importante, la question de l'immigration. Pourquoi ? Parce que le candidat favori, Jeb Bush, lui, il est très à gauche de son parti sur cette question-là. Jeb Bush, épousant une Mexicaine, il est très ouvert sur les questions d'immigration. Il veut régulariser les immigrants. Déjà, vous vous souvenez que George W. Bush, il s'était opposé à son congrès républicain parce qu'il voulait régulariser. Et c'était très important pour lui. Il n'avait pas réussi à le faire. Donc Jeb Bush, il est presque marginalisé par les propos de Donald Trump. Mais Donald Trump, il n'est pas idiot. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, vous allez faire perdre le Parti républicain parce qu'il faut un minimum de 40% d'hispaniques pour que les Américains passent, pour qu'il y ait un président républicain. Lui dit, non, vos enquêtes, c'est pas exactement ça. Les hispaniques, ils seront importants, mais ils seront importants le coup d'après. Pour l'élection prochaine, ils ne pèsent pas. Deuxième chose, les hispaniques ne votent pas nécessairement sur les questions d'immigration. Par exemple, pour gagner la Floride, il faut gagner un vote qui est plutôt un vote cubain, de gens qui sont là depuis des générations et qui vont pas nécessairement pénaliser le candidat républicain parce qu'il va tenir des propos durs sur l'immigration. Donc si vous voulez, Donald Trump, il a quand même de... Il réfléchit. En revanche, sur la question des femmes, il réfléchit peut-être un peu moins. Pourquoi ? Parce que Mitt Romney, lorsque, je suis désolé de revenir à 2012, lorsqu'il a perdu contre Barack Obama, il a perdu aussi dans l'électorat féminin. 11 points de décalage. Alors imaginez l'élection qui vient. Si le candidat démocrate est une candidate, comme c'est probable, Hillary Clinton. Vous imaginez le différentiel de voix chez les femmes entre une candidate démocrate qui irait chercher les indépendantes, toutes les voix indépendantes et féminines indépendantes, contre un candidat républicain qui serait sur la question féminine. Il ne s'agit pas simplement de propos, il s'agit de dire on ne va pas rembourser tel et tel frais de santé, etc. Eh bien là, on aurait un différentiel, un gender gap trop important et les républicains ne pourrait pas rattraper cela. Donc si vous voulez, par rapport à Bachmann ou des gens comme ça, la grande différence, c'est évidemment la possibilité pour Trump de continuer sans les républicains à être indépendant. Et c'est pour ça que dans la réflexion des sympathisants républicains, lorsqu'ils devront décider, eh bien, ils vont se dire qui est en capacité de gagner. Donc ils vont dire, oh, peut-être plutôt Jeb Bush, mais qui va nous faire perdre? Et si je ne vote pas pour Trump, est-ce que en allant en indépendant, il ne va pas faire perdre la machine républicaine. Une dernière chose très importante, jamais un démocrate n'a succédé à un démocrate depuis l'ère contemporaine. Depuis 1951, vous savez, l'idée des... Depuis 51 dans la Constitution, c'est le 22e amendement. Vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats. Depuis Roosevelt, plus de deux mandats depuis 51. Roosevelt avait fait beaucoup de mandats, donc on a pris ce 22e amendement. Depuis, il n'y a eu qu'un seul cas, la mort de Kennedy, où Johnson, vice-président, prend la succession et est élu, mais jamais un démocrate succède à un démocrate. Donc ça veut dire que les républicains, normalement, doivent gagner. Mais là, il y a ce phénomène-là qui est en train de rebattre les cartes.
Encore un mot tout de même sur ce qu'on a pu appeler les dérapages machistes, sexistes de Donald Trump. Nous avons reçu dans Un jour dans le monde l'année dernière Sylvain Sipel, ancien correspondant du Monde, du quotidien Le Monde aux États-Unis. Dans un livre récent, il décrit la sociologie électorale républicaine, donc aux États-Unis. Les républicains, c'est le parti de l'homme blanc américain déclassé, effrayé par l'indépendance des femmes, rétif aux minorités. Pour le dire de manière extrêmement schématique, quand Trump fait des saillies machistes, sexistes, misogynes, phallocratiques, enfin on peut multiplier les mots à l'infini, est-ce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait, François Durpaire ?
Sauf qu'il n'est pas certain que le descriptif que vous faites de cette Amérique-là, ça fasse la majorité des Américains lors d'une élection. Il n'est pas du tout certain que ça fasse la majorité des Américains. D'autant plus que, de l'autre côté, si vous avez comme candidate démocrate Hillary Clinton. Elle n'aura pas la même sociologie électorale que Barack Obama. Peut-être que les minorités se mobiliseront moins pour Hillary Clinton. On se souvient du vote des jeunes et des noirs pour Barack Obama, très massif. Là, Hillary Clinton, elle va chercher aussi chez la classe ouvrière, chez le blanc déclassé que vous citez. Elle a fait un début de campagne sur ce thème-là. On parle même d'un soft populism pour Hillary Clinton. Vous voyez, donc elle va aller chercher une autre sociologie. Donc les républicains, il faut aussi que les républicains n'apparaissent pas comme des hommes de Néandertal. Mmh. Et vous savez, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'États, par exemple, qui ont voté pour le mariage gay. Voter, pas une loi. Donc il y a une sociologie qui évolue aux États-Unis. Donc si les républicains apparaissent totalement à côté de l'évolution culturelle de cette Amérique-là, cette guerre culturelle et politique, ils risquent de la perdre une nouvelle fois dans les élections qui vont venir. Donc ça veut dire que Donald Trump, pour l'ensemble des républicains, c'est une chance en termes, j'allais dire presque de marketing, parce qu'on parle beaucoup, et vous imaginez la chaîne Fox News qui organise presque cette primaire, hein, c'est Fox News qui a décidé.
Ah, c'est une coproduction, ouais.
Fox News a dit, voilà les principaux candidats, voilà les candidats les moins importants, moi je vais les classer, ces 17 candidats, il y en a trop. Fox News donc co-organise cette élection primaire, et c'est très important pour Fox News, parce que évidemment c'est un audimat très important, mais en même temps, quid de cette élection primaire. Normalement, on se rappelle que l'élection primaire, ça doit engendrer une dynamique, ça doit créer un momentum, c'est ce qui s'était passé pour Obama en 2008, et chez les républicains, c'est nécessaire, parce que Hillary Clinton sera une candidate très difficile à battre.
Du côté d'Hillary Clinton, précisément Frédéric Carbone, comment ça se passe? C'est pas un peu compliqué, plus compliqué que prévu en tout cas?
Écoutez, en tout cas, disons que si elle avait parfaitement réussi sa pré-campagne avant sa déclaration de candidature, où elle avait déblayé totalement le terrain, faisant juste savoir « je vais peut-être y aller en semant des petits cailloux », aucune autre personnalité de se dégager, sa campagne, elle est plus compliquée. Parce que, qu'elle le veuille ou non, la question de la personnalité des Clinton, la question de peut-on faire confiance à Hillary Clinton, la question de l'honnêteté de la famille Clinton, le rapport à l'argent, eh bien, il est posé, et il est posé via ses emails, ses fameux emails, l'utilisation de sa boîte personnelle pendant qu'elle était secrétaire d'État. Elle avait cru pouvoir s'en débarrasser un peu. Eh bien non, ça revient en permanence, parce que c'est toujours les mêmes questions autour des Clinton. Est-ce qu'il n'y a pas leurs propres règles à eux et qu'ils échappent aux règles traditionnelles? Donc elle est rattrapée par ça. Donc elle ne fait pas une campagne enthousiasmante. Entendons-nous bien, aujourd'hui, face à Bernie Sanders, qui est un peu... ça n'a rien à voir évidemment avec Donald Trump, mais de la même manière que Trump n'est pas un membre du Parti républicain, candidat chez les républicains, et bien Bernie Sanders, ça n'est pas un membre du Parti démocrate. Lui, alors, c'est pur idéologiste, un socialiste, social-démocrate, hein, on dira en Europe.
Mais il est plus à gauche que les démocrates. Hein.
Beaucoup plus à gauche que les démocrates. Et cette partie de l'électorat démocrate qui veut mettre un coup de barre à gauche, elle est derrière lui. Et ça gêne Hillary Clinton. Il fait des meetings avec 15-20 000 personnes. Après, très honnêtement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'Hillary Clinton remportera tous les États ou pas face à Bernie Sanders? Peu de gens imaginent que Bernie Sanders puisse être le candidat. En revanche, cette espèce de début de campagne un peu difficile d'Hillary Clinton, ça laisse peut-être de la place à d'autres personnes qui se demandent si elles vont pas y aller. Mm-hmm. Et celui qui, en ce moment, y pense très fort.
Biden.
Va sans doute se déclarer dans les jours qui viennent. C'est Joe Biden. Et Joe Biden, le vice-président. Alors, François Durper disait, c'est très compliqué. Aucun démocrate n'a succédé à un démocrate depuis l'après-guerre quasiment. Là, ça serait encore pire pour lui parce que ça serait vraiment le troisième mandat d'Obama. Il est le vice-président d'Obama. Il pourra pas se distinguer de lui. Mais il y pense très sérieusement. Il rencontre du monde en ce moment, notamment Elizabeth Warren, qui est la vraie figure populaire de gauche chez les démocrates, qui, si elle soutient Joe Biden, c'est vraiment un point important dans la campagne. On n'en est pas là, mais il l'a vu, petit déjeuner discret hier à Washington. Il a vu aujourd'hui Warren Buffett. Là, c'est l'argent, à l'inverse. Donc, il prépare sa campagne, il prépare sa candidature. Dans le pire des cas, entre guillemets, s'il est candidat, eh bien, ça rajoutera beaucoup de difficultés à Hillary Clinton.
Bernie Sanders, François Durper, comment analysez-vous cette trajectoire et ce positionnement idéologique?
Alors, Bernie Sanders, le problème n'est pas qu'il soit trop puissant pour Hillary Clinton, c'est qu'il ne soit pas suffisamment puissant, c'est de ne pas avoir une opposition suffisamment forte. Bernie Sanders était un candidat qui était très bien parti, mais qui a été pénalisé par ses déclarations un peu malheureuses et son absence de soutien au moment du mouvement des Afro-Américains. Hein, donc il a été extrêmement critiqué pendant cette période. On n'imagine pas une candidature aussi, à gauche pour le Parti démocrate, mais ne pas avoir le vote des minorités. C'est quand même très pénalisant pour lui. Donc on va dire qu'Hillary Clinton, elle n'a pas de soucis à se faire du côté Bernie Sanders. Du côté, en revanche, de Joe Biden, il faut se souvenir, Frédéric Carbone l'a dit, évidemment, c'est un problème peut-être d'être vice-président. On se souvient d'Al Gore, mais on se souvient aussi de George Bush, qui lui, je parle du père, comme vice-président de Reagan, avait réussi, lui, à gagner l'élection présidentielle. C'est possible pour un vice-président de gagner, d'autant plus que Barack Obama, il a une cote de popularité, on voit son bilan, les Américains, il y a une adhésion quand même pour ce bilan. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est Joe Biden. Il n'aurait jamais pensé à se présenter si la candidature d'Hillary Clinton était aussi évidente. S'il pense à se présenter, c'est parce que précisément, Hillary Clinton, il y a cette fêlure de tout temps. Ça fait un quart de siècle que les Américains la connaissent. Et quand vous demandez à n'importe quel sympathisant démocrate, il vous dit « je vais voter pour Hillary Clinton ». Quand même, je vais voter pour elle quand même. Personne vous dit, oui, super, je vais voter pour Hillary Clinton. Je vais voter quand même pour elle. En dépit du Emailgate, en vertu du fait qu'elle n'aime pas trop les Américains, elle n'aime pas trop les journalistes, elle est très secrète. On voudrait en savoir plus. Mais non, c'est un candidat qui fait pas l'unanimité. Peut-être qu'elle a trouvé quand même un axe sur le fait qu'elle est mère, qu'elle est grand-mère, que c'est la première femme présidente. Donc là, elle essaie d'avoir une campagne qui tranche avec la campagne de 2008. Elle en avait pas du tout parlé lorsqu'elle avait été battue par Barack Obama. Mais en revanche, Hillary Clinton, son problème, c'est aussi de se dire comment je fais sans une opposition très très forte. Parce que là, il va se passer un peu ce qui s'est passé pour beaucoup de candidats qui n'avaient pas d'opposition. C'est les médias américains qui vont faire l'opposition à Hillary Clinton. Et ça, c'est pas très bon.
Un dernier mot de conclusion, Frédéric Carbone.
Ben oui, sur Joe Biden, la candidature, elle est tellement dans les tuyaux que déjà, certains médias croient savoir qu'il annoncera sa candidature en disant qu'il est candidat à un seul mandat. Il a bien conscience de son âge. Il est encore plus âgé qu'Hillary Clinton. Ça fait très longtemps qu'il est dans le tableau. Il dirait qu'il est candidat pour un seul mandat. Et puis, il y a l'équation familiale. Vous savez que les Américains adorent qu'on leur raconte une histoire qui les fait pleurer, qui les émeut, qui les remue. Et ben là, dans l'histoire personnelle de Joe Biden, il y a le décès de son fils il y a quelques semaines. Barack Obama avait prononcé l'éloge funèbre. Et vous savez que la candidature Biden, elle a émergé avec des journaux racontant que son fils, sur son lit de mort quasiment, lui a fait promettre d'être candidat parce qu'Hillary Clinton ne serait pas une bonne présidente pour les États-Unis.
Merci à tous les deux. Merci François Durper, historien, merci spécialiste des États-Unis. Merci Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington. Le 18h20 de France Inter continue, il est 18h43. À suivre dans Un jour dans le monde, une nouvelle voix, celle de Michaël Thébault. I can't be bothered.
All concerned with what you say. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easy going in the past for my own good. Allowed you to keep mistreating me the way no true love should. Can't be bothered. Don't expect my sympathy. My heart's gone cold. You lost that old time hold on me. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Yeah. don't expect my sympathy. For my heart's gone cold, you lost that old time hold on me. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score. It's goodbye, baby. I can't be bothered no more. Oh, it's goodbye, baby. I can't be bothered no more.
Le swing d'Hugh Coltman dans le 18-20 France Inter.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et c'est ailleurs dans le monde, nouveau rendez-vous quotidien. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Un petit journal de l'international sur ces informations étrangères qui ne font pas la une en France. Direction pour commencer aujourd'hui, Tchernobyl.
Et Tchernobyl, la centrale nucléaire ukrainienne, 29 ans après cette explosion du 26 avril 1986. Le cœur du réacteur numéro 4 qui entre en fusion, on connaît la suite, évidemment, cataclysmique. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on peut visiter le site en simple touriste. Et c'est ce que vous venez de faire, Philippe Lefebvre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce Tchernobyl Tour, on va appeler ça comme ça, commence dans un bus. Et là, on vous met tout de suite dans l'ambiance. Hein.
Et c'est mieux de ne pas toucher la végétation et les objets que vous verrez autour de vous.
Alors ceux qui nous escortent, c'est Natalia et Yuri. Alors Yuri, c'est un des 15 guides officiels qui ont le droit de travailler sur le site. Officiellement, il travaille pour une agence de tourisme qui est plutôt une filiale du gouvernement ukrainien qui gère le site de Tchernobyl.
Normalement, j'y passe 15 jours par mois. Ça dépend de la période. Quand il y a beaucoup de touristes, je peux y passer 20 jours. Et une fois, je suis même resté 30 jours dans la zone car je devais accompagner des délégations et des journalistes. Bien sûr, on contrôle tout le temps les radiations que l'on reçoit. J'ai toujours un capteur sur moi. Et chaque mois, je dois donner ce capteur au laboratoire de la centrale de Tchernobyl. Et c'est là que l'on mesure l'exposition à la radioactivité dans la zone interdite de tout le personnel, y compris les guides.
Voilà, voilà pour les petites mises en place. Hein. On passe le premier checkpoint, on descend du bus, Philippe. La ville fantôme de Pripyat à 3 km hein, de la centrale. Qu'est-ce qu'on voit et surtout, qu'est-ce qu'on entend tout d'abord?
Eh ben, on entend ça. Alors ça, c'est le son du dosimètre. C'est un petit appareil qui nous indique le niveau de radioactivité. Et dès qu'on l'approche du sol, il s'emballe. C'est pratiquement, d'ailleurs, pendant la visite, le seul son qu'on entend. Et ce qu'on voit, ce sont les bâtiments évacués de Pripyat. Ils ont été évacués en quelques heures et aujourd'hui, ils sont délabrés. On marche sur du verre, sur du béton fracassé. La forêt et les buissons recouvrent pratiquement tout, le palais de la culture, la piscine et surtout cette école maternelle.
Dans ce village, au moment de la catastrophe, il y avait environ 1000 personnes qui vivaient ici.
Et вот эта деревня была эвакуирована только 3 мая 86 года, то есть через неделю после аварии.
Et ce village était évacué seulement une semaine après l'explosion, le 3 mai 1986.
Alors on imagine en entendant tout cela, scène impressionnante quand on y est, quelles sont les premières réactions, les premiers sentiments des touristes?
Eh bien, la première réaction, c'est le silence, comme si ces touristes n'arrivaient pas à mettre des mots sur ce qu'ils ont devant leurs yeux. Christian est l'un de ces touristes français.
Ça fait penser un peu au Pompéi moderne, c'est-à-dire quelque chose qui s'est arrêté, une vie qui s'est arrêtée, et tout est resté en l'état, c'est assez extraordinaire. J'ai visité Pompéi, ça fait à peu près la même chose, même sensation.
Par contre, Louis Chambaudy lui connaît bien le site, il est venu plusieurs fois, puisqu'il travaille à Kiev, il possède 2 restaurants.
La ville fantôme de Pripyat qui est quand même relativement impressionnante. Moi, je trouve que même elle est à visiter en hiver, où là, c'est sous la glace et la neige, c'est presque effrayant. Et visiblement, les gens sont très satisfaits de la visite. Ça plaît énormément. Donc je pense que là, il y a un concept touristique peut-être à développer pour l'Ukraine.
Voilà, concept touristique à développer, dit-il. Et puis peut-être aussi pour faire baisser les prix, tout simplement, Philippe, car pour l'instant, visiter Tchernobyl, ce n'est pas donné.
Alors, il faut compter 400 $ par jour et par personne, avec le déjeuner dans le restaurant de Tchernobyl, où vous mangez avec les ouvriers du chantier du sarcophage. C'est cher, mais il y a du monde, quand même déjà 10 000 visiteurs.
Disons qu'en soi-même, peut-être pas, mais dans le cas de la découverte de Kiev, on est tellement près de Tchernobyl qu'il y a quand même un des faits majeurs qu'on a tous vécu. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions de se retrouver là. On peut se dire qu'il y a peut-être aussi d'autres gens qui ont envie de partager cette émotion. Donc on peut peut-être imaginer demain. Donc il va falloir qu'on analyse bien la chose. Donc ça peut peut-être le devenir. On va regarder.
Oui, ça intéresse déjà les tours opérateurs français, comme celui qu'on vient d'entendre. C'est Stéphane Pennec, le directeur de Saint-Lin-Holiday, un tour opérateur breton, qui envisage de faire venir des touristes français à Tchernobyl.
Mais est-ce que tout cela, finalement, Philippe, ce n'est pas un peu artificiel quand même ?
Ah, c'est vrai que je me suis posé la question, car Tchernobyl, c'était il y a bientôt 30 ans, et par exemple, dans la première école qu'on visite, les poupées semblent avoir été placées sur les lits des enfants spécialement pour les touristes, tout comme l'empilement, je dirais, artistique des masques à gaz dans une autre école, sans oublier les portiques de détection de radioactivité sous lesquels on doit passer deux fois en quittant la zone, on se demande s'ils fonctionnent vraiment. En tout cas, interdiction de faire la moindre photo, et le risque, eh bien, c'est que Tchernobyl devienne malgré tout une sorte de Disneyland de la peur. On n'en est pas encore là, toutefois, pour Jean-Baptiste Pigeon, c'est le patron de l'Intercontinental de Kiev.
Disneyland de la peur, je pense que c'est un bien grand mot. C'est vrai que ça devient quelque part malgré tout un site touristique en soi, mais qui ne peut que profiter au développement du tourisme en Ukraine. Ça fait partie des choses. Il y a cette grande richesse culturelle, architecturale, mais il y a également Tchernobyl.
Alors un dernier mot, Philippe, sur ce qui sera aussi certainement une future attraction touristique, on va dire ça comme ça, c'est le gigantesque sarcophage toujours en construction.
Oui, alors ça ressemble à un hangar pour dirigeables, 108 mètres de haut, 102 mètres de long, il doit glisser sur les rails pour recouvrir le fameux réacteur 4, le réacteur qui avait explosé. Alors en théorie, le chantier doit s'achever en 2017, mais ça pourrait prendre pas mal de retard à cause de la situation, vous en doutez, en Ukraine.
Philippe Lefebvre, de retour de Tchernobyl, merci beaucoup.
Et direction Michael. Maintenant, le Mali.
Et plus précisément, le Nord-Mali, où le processus de paix a été signé il y a près de 2 mois. Mais les hostilités ont repris la semaine dernière entre les ex-rebelles de la CMA et les milices pro-Bamako. David Bachet, vous êtes en direct de la capitale Bamako. Bonsoir.
Bonsoir, Michael.
Alors, un comité de suivi de ces accords s'est mis en place ce matin même. Et c'est franchement mal parti, puisqu'aussitôt boycotté par l'ex-rébellion.
Effectivement, les ex-rebelles de la CMA sont bienvenus à la réunion du comité de suivi qui commençait ce matin, mais ils ne sont restés que quelques minutes, le temps d'expliquer qu'il n'était pas question pour eux de travailler à l'application de l'accord de paix tant que la crise ouverte avec les milices pro-Bamako ne serait pas résolue. Je vous propose d'écouter Cheikh Touré. Il est le représentant au Mali de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et à ce titre, il fait partie de la médiation internationale et du comité de suivi de l'accord de paix. Il explique la position des ex-rebelles et la réaction de la communauté internationale.
Ils maintiennent leur présence dans la dynamique de paix, mais ils pensent qu'il y a une situation inacceptable, ils ont tout à fait raison sur ce point, qu'ils doivent trouver d'abord une solution. Ils pensent que logiquement, on devrait obtenir que les mouvements qui ont créé cette situation puissent cesser, mais aussi que les gens puissent se retirer des endroits qui apparaissent aujourd'hui comme occupés. Je crois que cette position rejoint globalement la position de la communauté internationale qui souhaite que l'on observe les positions initiales.
C'est-à-dire avant la reprise des combats.
Absolument.
Le nœud du conflit, c'est en fait la ville d'Anéfis, une ville conquise il y a une semaine en violation du cessez-le-feu par les groupes pro-Bamako, des groupes qui refusent pour le moment d'en partir au profit des ex-rebelles. Alors est-ce qu'ils accepteraient de s'en aller si les casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali en prenaient le contrôle ? Toutes les pistes sont à étudier. Ce sera justement le travail d'un comité ad hoc dont la création a été décidée aujourd'hui même pour sortir de cette impasse.
Et on en reparlera ici même. Merci beaucoup, David Bachet, en direct de Bamako. Pour finir, Nicolas, retour à la politique américaine avec ça.
On est dans une prairie, là.
Exactement, ça vous dit forcément quelque chose. La petite maison dans la prairie, 205 épisodes entre mars 74 et mars 83. Eh bien, l'héroïne, l'actrice Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls, se lance en politique, sans couette cette fois, dans l'état du Michigan. Elle brigue la Chambre des représentants. Et à votre avis, sous quelle couleur se présente-t-on quand on a été une Ingalls ?
À votre avis, moi je donne ma langue au chat.
Démocrate face à ces Nelly Olson, forcément républicaine. À demain.
À demain, Michael Thébault.
Nicolas Demorand, le 18-20 sur France Inter.
18h55, l'édito cette semaine avec les spécialistes de la rédaction de France Inter. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Nicolas.
Membre du service diplomatique, alors à quoi servent aujourd'hui les ambassadeurs de France à l'étranger? Ont-ils un vrai pouvoir? Ils sont 160 à se retrouver à partir d'aujourd'hui à Paris pour leur conférence annuelle rebaptisée Semaine des ambassadeurs. Et pour la première fois, ils ont répondu directement aux questions du public avant de rencontrer demain des chefs d'entreprise dans un format speed dating, Bertrand.
Oui, les ambassadeurs, ce sont le plus souvent des personnages inconnus du public que l'on aperçoit fugitivement sur des images de télévision derrière le président ou le ministre des Affaires étrangères lors d'un déplacement officiel. Mais franchement, à part les expatriés dans les pays concernés, combien de Français connaissent leur nom et seraient capables de dire qui est en poste, même dans les grandes capitales du monde, y compris chez nos voisins européens. Parfois, c'est vrai, l'actualité les propulse sur le devant de la scène en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. Et pourtant, ce ne sont pas des ombres aperçues derrière les vitres fumées des limousines blindées, ni de hauts fonctionnaires qui font de la représentation sous des lambris dorés. Ils revendiquent un rôle d'influence et de plus en plus doivent savoir tout faire. C'est ce que plusieurs d'entre eux ont expliqué cet après-midi à Paris, en rencontrant par groupe les 2000 personnes inscrites pour ces rendez-vous inédits. Un public souvent jeune, beaucoup d'étudiants, parfois un peu intimidés. Alors, à quoi servent aujourd'hui nos ambassades? On a parfois l'impression que tout se décide à Paris. C'est vrai et c'est normal, car le travail d'un ambassadeur, c'est d'abord de comprendre le pays où il vit, de transmettre son analyse et de relayer sur place le point de vue de la France. Sauf que, désormais, à la fonction de diplomatie d'influence, s'ajoutent des problématiques très actuelles, comme la lutte contre le terrorisme ou la préservation de l'environnement. Et dans tous les cas, dans tous les pays, les ambassadeurs consacrent beaucoup de temps à promouvoir les investissements français à l'étranger et étrangers en France. La fameuse diplomatie économique, chère à Laurent Fabius, à laquelle les jeunes générations d'ambassadeurs sont de mieux en mieux formées. D'où le speed dating prévu demain après-midi. Plus de 160 ambassadeurs qui rencontreront chacun une dizaine d'entrepreneurs qui veulent, eux, implanter ou développer leurs affaires à l'étranger.
Bertrand, la diplomatie française, elle continue à peser véritablement dans le monde?
Oui, à cause de l'ampleur de son réseau diplomatique, le troisième dans le monde après celui des États-Unis et de la Chine, mais quand même en perte de vitesse. Le Quai d'Orsay doit réduire la voilure pour s'adapter aux contraintes budgétaires. Et surtout, l'affaiblissement de l'économie française depuis des années en fait pour beaucoup de pays étrangers un exemple à ne pas suivre, ce qui rend plus difficile le rayonnement de la France dans le monde et fragilise sa crédibilité en Europe. Certes, la diplomatie française reste aux avant-postes sur les crises régionales et les grands dossiers internationaux, l'Ukraine, le nucléaire iranien, le Mali, sans compter le réchauffement climatique avec l'organisation à Paris dans 3 mois de la COP21, autre cheval de bataille du ministre des Affaires étrangères. Sur ce dossier, le Quai d'Orsay a même invité le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, après-demain à Paris. Reste qu'à voix basse, certains de nos ambassadeurs regrettent une diplomatie d'apparence à l'efficacité variable. En coulisses, l'un de ces diplomates de haut rang s'agaçait tout à l'heure de tous ces débats au moment où l'Europe est confrontée à la crise des migrants dont personne ne semble prendre la mesure et qui laisse la France et l'Union européenne indécises.
Bertrand Galichet du service diplomatique de la rédaction de France Inter, merci.